Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le podcast lié aux journées d'études jeunes chercheurs du laboratoire C3S qui porte sur la quatrième journée d'études organisée par le laboratoire qui se nommait cette année la subjectivité atout ou obstacle, défi des sciences du sport et du corps organisée les 17 et 18 octobre 2024. On se retrouve donc aujourd'hui avec Annabelle Capret. Bonjour Annabelle.
Bonjour.
Qui avait du coup fait une communication qui se nommait « Mes objets et moi-même, entre cécité et acuité aux rapports sociaux dans la gouvernance du sport » et qui nous vient de l'Université de Brest. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton sujet de thèse, s'il te plaît ?
Ben avec plaisir. Donc, je suis maîtresse de conférence à l'Université de Brest. J'ai réalisé ma thèse, j'ai commencé ma thèse en 2017 à l'Université de Bordeaux. J'ai commencé ma thèse j'ai réalisé ma thèse avec un contrat doctoral. J'ai été financée donc tout du long puisque j'ai terminé en 2020. Et ma thèse portait sur l'intitulé, c'est la place et le rôle des femmes dans la gouvernance des fédérations sportives françaises. Et en fait, j'ai interrogé au travers de ce travail-là construction et les effets d'une politique d'égalité dans la gouvernance du sport. Loi pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes qui a imposé des nouveaux quotas pour la composition des instances dirigeantes des fédérations sportives françaises.
Et donc, pour toi, pourquoi le chercheur doit-il s'intéresser à la subjectivité ?
Pourquoi il doit s'intéresser à la subjectivité ? Je vais parler de mon cas personnel. Peut-être que ça pourra aider à élargir à d'autres personnes. Moi, ça m'a aidé à mieux comprendre finalement ce que je faisais, de prendre un peu de distance, de comprendre ma position vis-à-vis de mes enquêtés, vis-à-vis de mon sujet. Ça a permis finalement de renouveler le regard, de se distancer et de mieux comprendre, finalement de prendre une position de hauteur de ce que je faisais, de ce que je produisais. Voilà, il a fallu... Peut-être qu'on en discutera, il a fallu un certain temps pour arriver à questionner cette subjectivité. Ça ne s'est pas fait tout seul, ça ne s'est pas fait dès le début. Et je pense que ça nécessite un peu de temps. C'est pas un exercice qui se fait en un jour, ça y est, je m'attelle à ce sujet-là. Pour moi, en tout cas, ça a été au long cours et ça a été un ensemble d'influences, de moments, de temps d'échange, comme on a eu la journée d'études d'ailleurs, où voilà, on prend un peu le temps de se poser sur cette question, voilà.
Mais justement, c'est la question suivante. Qu'est-ce qui t'a amené à te questionner sur la subjectivité ? Est-ce que c'est une lecture ? Est-ce que c'est un moment particulier de ta thèse ? Qu'est-ce qui t'a amené à réfléchir à ça ?
Alors, je me suis posé la question justement pour la journée d'études. Et en fait, j'ai réalisé qu'une des premières fois où on m'a confrontée à ma subjectivité, en fait, c'était on va dire une façon non pédagogique et non scientifique, c'était plutôt le présupposé de non-neutralité de la chercheuse sur un sujet d'étude que sont les inégalités de genre. En fait, lors d'un congrès, on m'a un peu à demi-mot dit que j'étais pas neutre parce que j'étais une femme et que j'étudiais les inégalités de genre. Donc la première fois, je pense que la première fois où j'étais confrontée à cette question de la subjectivité, c'était presque pas une agression, mais c'était un peu frontal et en quelque sorte pour délégitimer. Enfin, moi, je l'interprète comme ça, pour délégitimer le travail que je faisais. Et après, si je fais le tour de la question aussi de quand est-ce qu'on est confronté à la subjectivité, je crois que c'est aussi quand j'ai commencé à en parler autour de moi, quand j'ai commencé à faire ce travail-là, à ma famille, à mes amis ou des personnes extérieures. Par exemple, je me souviens, à un moment donné, je faisais pas mal de blablacar, je racontais ce que je faisais, mon sujet, et c'est un sujet qui revenait aussi assez souvent, en fait. Donc, ça a plutôt été, on va dire, une influence extérieure de « on me confronte, moi, à mon sujet », et ça venait pas forcément du domaine universitaire et de la nécessité de se positionner, etc. C'était plutôt du fait du regard extérieur. Je pense que c'est là une des premières fois où on m'a, j'ai été confrontée à ma subjectivité. Et après, je veux dire, un deuxième grand moment, c'était plutôt sur des questions méthodologiques, d'accès au terrain, Moi, j'ai fait des entretiens avec des dirigeants et des dirigeantes des fédérations sportives nationales. Il y en a certains, c'est des hauts dirigeants. Il y en a qui peuvent être imposants. Et du coup, j'avais besoin de ressources méthodo pour voilà, envisager ces entretiens-là, questionner ma posture, comment créer une relation de confiance avec quelqu'un qui me domine socialement. Et voilà, là, ça a été un deuxième temps, plus réfléchi, plus scientifique, enfin, dans les normes universitaires, où là, moi, ça a été ma démarche de me confronter à ma subjectivité, je dirais.
Donc finalement, il y a eu un événement où là, un peu dur pour toi, où d'un coup, tu as dû te confronter un peu en direct, et ensuite par les lectures, c'est ça en fait, sur une
Oui.
communication scientifique qui après t'a amené à te questionner, et puis à questionner un petit peu autour de toi, plus les lectures scientifiques et l'alliage des deux a fait que tu travailles ce côté-là aussi, c'est ça?
Oui, alors je dirais que le premier, là, oui, voilà, il a plus été subi. C'était pas moi qui faisais la démarche. Et après, sur le deuxième volet, c'était plus. Bon, ça va avec les réflexions sociologiques, avec la méthodologie. Enfin, c'est voilà, c'est un exercice qui est habituel pour les chercheurs et pour les chercheuses, qui a été vécu de façon plus apaisée aussi pour moi, parce que du coup, j'avais des ressources qui m'ont permis de déconstruire cette notion de la neutralité, qui m'ont permis de voilà, de désamorcer tout ça, parce que c'est vrai que sur le premier volet, quand j'avais on va dire, cette pression extérieure sur la question de la subjectivité, c'était un peu délicat pour moi, j'étais un peu balbutiante, je n'étais pas totalement à l'aise, je savais que j'étais légitime pour étudier ce sujet et que j'avais plein de choses à dire, mais je le verbalisais pas forcément de façon simple, avec force, comme aujourd'hui je peux le faire, et parce que j'ai déconstruit pas mal de choses sur cette question-là.
Et justement, elle se trouve où la subjectivité dans ta recherche?
Elle se trouve où la subjectivité dans ma recherche? Moi, bah, partout en fait. On est tous et toutes subjectifs. Dans ma recherche, pour parler de façon un peu plus spécifique, moi, je me suis intéressée, si je ne parle que de mon travail de thèse, donc aux inégalités de genre dans la gouvernance du sport. Jusqu'à présent, c'est un sujet qui a peu été interrogé au prisme du genre, qui a plutôt été réalisé par des hommes. Et donc, je pense que ma socialisation, la trajectoire universitaire que j'ai eue, m'ont amené à interroger cette question-là de la gouvernance au prisme d'un thème particulier, d'un angle théorique particulier, celui du genre. Et c'est ma subjectivité qui est, voilà, le fruit de cette socialisation-là. Et donc, voilà, elle est partout, ma subjectivité, mais enfin, à mon sens, elle est dans toutes les thèses et dans tous les travaux. On a tous un regard particulier, une position dans le monde social qui est particulier et qui forme nos choix théoriques, méthodologiques. C'est comme ça que je l'envisage.
Et tu disais aussi dans ta communication, à un moment tu disais que tu avais été élue à la FFSU et que du coup tu correspondais aussi à une future dirigeante et ça c'est quelque chose aussi que tu avais déconstruit. En plus de la question du genre, il y avait aussi ta proximité aussi avec le milieu fédéral.
Oui, tout à fait. Alors, je l'ai dit tout à l'heure que j'appréhende, il y avait une forme d'appréhension de dire je vais faire des entretiens avec des hauts dirigeants. Moi, je suis issue d'une classe moyenne. Enfin, pour moi, je me faisais tout un monde, surtout sur le prisme de la classe sociale, en fait. J'interprétais la distance sociale qu'il pouvait avoir avec mes invités. En fait, je me suis rendu compte assez vite que, en faisant les premiers entretiens, que j'étais du même monde, en fait. Que j'étais une femme blanche, sportive, et que les dirigeants, bon, ils ressemblaient peu ou prou à mes parents, en fait, qui ont aussi été engagés dans le domaine sportif, qui ont aussi, bon, à une échelle locale, mais bon, voilà, en fait, c'était un monde familier. Et d'ailleurs, c'est ce qui aussi a rendu possible la thèse, c'est que je ressemble d'une certaine façon à mes enquêtés, ou en tout cas qui se sont reconnus en moi. Certains ont parlé de leurs petits-enfants en thèse quand ils me répondaient, donc, effectivement, c'est aussi une des conditions de possibilité, dans mon cas, que de ressembler et d'avoir été sportif de haut niveau et d'avoir été cooptée à la Fédération française de sport universitaire. Donc là, dans ce cadre-là, ça a aidé pour moi d'être proche de mon sujet, de par ma trajectoire familiale et sportive.
La subjectivité, elle a été plutôt un obstacle au cours de ta thèse. Est-ce que tu es parvenu à en faire un atout?
Pour moi, je ne le formulerai pas en atout et en obstacle, parce que pour moi, la subjectivité, elle est partout. Après, c'est vrai que, comme je le disais, ma socialisation familiale, sportive, m'a aidée à interroger les dirigeants et les dirigeantes, que j'ai été extrêmement bien accueillie quand je faisais les entretiens. Bon, souvent, je me déplaçais. Pour moi, la subjectivité, elle est partout. Après, en fait, tout dépend de ce qu'on entend par atout, c'est-à-dire atout pourquoi? Atout pour finir la thèse, atout pour s'insérer dans le milieu universitaire. Voilà. Alors, pour faire la thèse, comme je disais, ça a été un atout pour moi parce que finalement, j'avais une proximité sociale assez importante avec mes enquêtés, même s'il y avait une distance d'âge. Voilà. Il y a eu des projections sur moi, j'ai eu des projections sur eux, c'était assez facile. Après, je dirais atout, je dirais que ce serait un atout parce que d'avoir un questionnement en termes de genre sur la question de la gouvernance, c'est un sujet d'actualité. Il y a des lois qui sont passées, il y a des rapports de pouvoir aujourd'hui dans le monde du sport qui font que c'est des questions voilà, actuelles sur lesquelles il y a des travaux. Alors, peu universitaire, mais voilà, les gens s'interrogent là-dessus. Et dans le milieu universitaire, il y a aussi une institutionnalisation des études de genre qui fait que ben, c'est un atout que moi, j'utilise cette approche-là pour m'insérer, par exemple, dans la sphère universitaire, même si dans les STAPS, dans les sciences sociales du sport, bon, c'est pas totalement installé non plus. Donc voilà, ça dépend dans quelle perspective on aborde la question. Ça a été plutôt un atout, je dirais, pour faire la thèse et pour s'insérer dans le milieu universitaire. C'est sûr que quand on travaille sur l'inclusion des personnes trans, quand on est une personne trans, bon, par exemple, c'est beaucoup plus difficile, par exemple. Ou si on travaille sur le sport santé et qu'on est une personne valide, voilà, c'est aussi. En fait, la subjectivité, moi, je le considère comme une position dans le monde social qui forme une certaine lecture, et certaines analyses, certains choix. Et dans un rapport de pouvoir plus général, le monde universitaire, la société, eh bien, ça peut être un atout, effectivement. Je ne sais pas si je suis claire.
Si, si, c'était super bien, c'était très clair. Et qu'est-ce que ta recherche t'a fait? Même au-delà de la recherche, est-ce qu'elle a changé ta manière de voir le monde qui t'entoure?
Alors, sans contexte, sans l'ombre d'un doute, parce que moi, j'en suis venue à la question des inégalités, des rapports sociaux, de par mes mémoires de recherche, de Master 1, de Master 2, qui m'ont ensuite conduite à la thèse. Et c'est par les lectures scientifiques, voilà, que j'ai approfondi ce sujet et qui aujourd'hui, on va dire, a une place centrale dans mes centres d'intérêt, dans mon travail, mais aussi dans ma sphère personnelle. Ça a vraiment changé mon regard sur le monde. Je me souviens qu'à un moment donné, pendant la thèse, donc j'ai fait un travail qualitatif et quantitatif. Le premier travail, ça a été quantitatif, et ça a été d'essayer de voir dans les comités directeurs des fédérations sportives quelle était la place des femmes. Donc de quantifier au travers des sites internet les comités directeurs. Et de faire ça toute la journée sur les 2000 dirigeants qui composent la gouvernance du sport, j'arrivais, des fois je me rendais compte que j'arrivais dans une pièce et je scannais la pièce pour voir, là il y a 2 femmes pour 15 hommes. Et voilà, ça, pour dire à quel point ça formate, enfin, ça, voilà, la recherche a des conséquences sur la vie privée. Ça a déconstruit un certain nombre de choses. Et c'est bon, ouais, c'est la littérature féministe généraliste, on va dire, mais aussi appliquée au domaine du sport. Ça m'a permis de mettre à distance la pratique sportive que j'avais. Je jouais au basket, je suis passée par des centres de formation, une trajectoire de haut niveau. Ça m'a permis de mettre à distance aussi ces normes sportives-là, de déconstruire la question de la performance, du mérite. Oui, ça a eu un effet considérable sur ma trajectoire et sur ma façon de penser.
Et du coup, concrètement, est-ce que tu étais déjà animée par le débat de l'égalité homme-femme, etc. Ou alors est-ce qu'il y a des débats qui, enfin des, justement, il y a des choses qui t'ont beaucoup plus animée par les travaux que tu as faits ou inversement, etc.
C'est difficile de remonter le temps et de trouver comme ça à chaud des tournants, mais j'ai vraiment l'impression, c'est lecture a posteriori, ça vaut ce que ça vaut, mais que vraiment les premières lectures en Master 1 d'articles scientifiques, c'est vraiment là que ça s'est joué. Après, j'ai une histoire familiale où ma mère est assez engagée sur les questions sociales, il y a quand même. Mes parents sont plutôt encartés à gauche, il y a une sensibilité politique, même s'ils ne sont pas militants, qui fait que j'avais des dispositions, on va dire, à m'intéresser aux questions des inégalités, de genre en particulier. Mais bon, voilà, ce n'était pas écrit non plus. Et pour moi, le tournant, ça a été vraiment l'université, enfin le master, la recherche de master.
Ok, super. Et est-ce que ta perception, elle a changé au cours de la journée d'études?
Oui, elle a changé. Déjà, j'ai été agréablement surprise de voir que les sciences de la vie s'interrogeaient sur cette question-là. Vraiment, j'avais un a priori très fort sur, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont avoir à dire d'intéressant sur la question, mais en fait, c'est très intéressant d'avoir ça. Après, je pense que finalement, on partageait, on arrivait à des conclusions quand même assez unanime sur la question de la subjectivité, mais c'était très intéressant d'avoir des regards multiples, déjà de par la trajectoire, certaines personnes qui étaient en plein travail de récolte de données, certains qui avaient déjà terminé, mais aussi par la variété des sujets. C'était intéressant d'avoir cet angle, ces différents angles. Et ce qui m'a aussi beaucoup intéressée dans la journée, c'est d'avoir une discussion collective sur ce sujet qui tend plutôt à être un sujet individuel, son rapport à soi, à son terrain, à son sujet, et d'arriver, voilà, comme je disais, à avoir plusieurs perspectives, de réfléchir collectivement, parce que pour mon cas, ça a été beaucoup de réflexion individuelle, d'être seule avec la littérature, essayer de voir ce qu'on peut s'appliquer. Voilà, donc je trouvais aussi très intéressant de remettre du collectif dans des questions. On a l'impression que c'est des questions individuelles, alors que pas du tout.
Et du coup, est-ce que tu aurais des conseils à donner à un jeune chercheur concernant l'appréhension de la subjectivité au cours de la thèse? On sait qu'en sciences humaines et sociales, c'est quand même un grand sujet, on est obligé de passer par là. Comment faire, d'après toi?
Alors, j'ai pas de manuel ou de bonne méthode. Je dirais que pour moi, l'essentiel, c'est à un moment donné dans la thèse, je ne sais pas dans quelle temporalité, ça dépend du sujet, de la proximité du sujet, enfin, la proximité qu'on a avec son sujet, mais à un moment donné, c'est vrai que dans la thèse, il faut prévoir un temps de. Alors, c'est plutôt à la fin, plutôt au début, je ne saurais pas dire, mais au moins prendre le temps de faire ce travail-là. Aussi de considérer. Pour moi, en tout cas, au début, ça a été plutôt une approche par la classe sociale, au travers des questions de méthodologie, mais d'interroger sa subjectivité par le prisme d'autres variables. Une variable n'explique jamais une situation seule. J'ai parlé beaucoup de la classe, mais par exemple, moi, je m'étais finalement assez peu interrogée sur la distance de genre qu'il pouvait y avoir avec les dirigeants sportifs, mais c'était aussi, enfin voilà, c'est complexe, ça aurait mérité une réflexion aussi à cet endroit. Donc voilà, pour moi, ce serait de prévoir un temps dans la thèse où on se pose la question, on prend le temps de prendre un peu de distance, de moins écrire sur son sujet, mais peut-être d'écrire plus sur soi, sur sa position, sur sa trajectoire, et de le faire au prisme de différentes variables, de différents rapports de pouvoir, la classe, le genre, la race. Voilà.
Super. Et donc pour finir ce podcast, on a commencé un petit peu à déblayer le prochain thème de la journée d'études, donc la cinquième journée d'études. Et du coup, on avait une petite question à ce propos. Quelle place penses-tu accorder à la question de la créativité dans ta recherche?
Là aussi, ça a pas été une question que je me suis posée au début de ma trajectoire. Je pense l'avoir plutôt conscientisée après la thèse. Et finalement, je pense que la créativité, elle a une grande place dans la recherche. Mais pour y arriver, il faut quand même avoir une certaine maîtrise des codes universitaires. On peut pas avoir pas créer des dispositifs méthodologiques, théoriques, sans avoir une base solide et avoir finalement une acculturation aux normes universitaires. Et c'est peut-être pour ça que j'ai pas eu cette réflexion-là en début de thèse, parce que moi, l'universitaire, je me connaissais pas. Alors, dans ma famille, personne n'a fait de thèse. Moi, ça a vraiment été une découverte au jour le jour de ces normes-là. Et c'est maintenant, enfin, après avoir fini la thèse, où j'étais mieux insérée dans le milieu universitaire, que je maîtrisais peut-être un peu mieux les codes, que j'ai commencé à avoir plus de liberté pour jouer avec ces codes-là. Parce que c'est ça, en fait, la créativité, c'est jouer avec des normes universitaires et pas trop dépasser, parce que sinon, telle méthodologie n'est pas considérée comme légitime, telle position n'est pas considérée comme scientifique. Voilà.
Eh ben, parfait. Ben, merci. Est-ce que tu as peut-être un mot à rajouter sur la journée d'études, sur la subjectivité ou autre que tu n'aurais pas pu dire?
J'y pense. Il y a un livre qui m'a aussi beaucoup aidée, qui n'est pas sur la subjectivité, mais qui néanmoins m'a aidée sur cette question-là. C'est Sous les sciences sociales, le genre, qui a été dirigé par Danielle Chabot-Richter. Et en fait, elle déconstruit les cadres théoriques qui n'ont pas ou peu pensé les rapports sociaux de sexe. Et en fait, de voir que tout un pan de la littérature qui a été rédigé par les pères fondateurs de la sociologie, était elle aussi partielle parce qu'elle n'avait pas considéré ces questions-là. Ben, ça m'a aidé à mieux considérer ma propre subjectivité et de considérer qu'une subjectivité ne vaut pas plus qu'une autre dès lors qu'elle s'entoure de méthodes scientifiques.
Super. Eh ben, merci beaucoup Annabelle. Merci pour le temps que tu nous as accordé.
Merci d'avoir suivi ce podcast qui vous a été proposé par les jeunes chercheurs du laboratoire C3S. Nous vous invitons à découvrir l'ensemble des épisodes de cette journée, comme des précédentes qui ont eu pour thème la construction de l'objet de recherche durant la thèse et le corps à l'épreuve de la thèse.